Bonjour, ici Sophie, documentaliste à Anne Frank. Donc, je vais laisser Hugo présenter un petit peu notre émission sur le prix des lecteurs.
Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Vanier, je suis un élève de 4e du collège Anne Frank. Alors, je suis là pour vous présenter les élèves de 4e qui sont venus avec moi. Ils vont se présenter eux-mêmes.
Bonjour, moi c'est Eddy.
Bonjour, moi c'est Julien.
Bonjour, moi c'est Arnaud.
Bonjour, moi c'est Hugo.
Bonjour, moi c'est Sandati.
Bonjour, moi c'est Lenny.
Salut, moi c'est Timothée.
Ils sont venus pour vous présenter les livres du prix des lecteurs. Tout d'abord, nous allons commencer par Timothée, qui nous présente le livre « Le royaume des cercueils suspendus », qui a été écrit par l'auteur Florence Aubry. À toi, Timothée.
Ok. Je vais résumer un peu l'histoire du livre. C'est un petit village où il y a une tribu qui vit, s'appelle le peuple des Baa, et elle suit des traditions ancestrales. Lorsqu'ils deviennent des hommes, les jeunes garçons déploient leurs ailes lors d'une grande cérémonie, mais Wang n'en a pas. Considéré comme un imposteur, il est emprisonné dans une grotte à flanc de la falaise et est condamné à mourir. Sa fiancée Lei a l'espoir de le sauver, tandis que Xiong, son ancien meilleur ami, dévoré par la jalousie, aimerait lui faire plus mal encore. Luki, quatrième membre du groupe, est laissé pour compte. On essaye maladroitement de tirer les ficelles.
Et présente-nous aussi les personnages principaux.
Bah, il y a Wang, c'est un garçon qui n'est pas vraiment du peuple des Baa. C'est pour ça qu'ils disent que c'est un imposteur. Et donc, il va se faire emprisonner dans une grotte. Pendant très longtemps, il va essayer de s'échapper. Il y a le père de Wang qui essaye de... Enfin, il essaie de le retrouver.
Mm-hmm. De le sauver.
Ouais, de le sauver. Et du coup, il traverse la nature... en vivant des aventures. Ensuite, il y a Xiong. Il est très jaloux de Wang parce que Wang a fait sa déclaration d'amour à Lei alors que Xiong voulait lui faire sa déclaration. Et comme il n'a pas eu le temps, il est très jaloux.
Voilà, c'est ça. Il y a une espèce de tension entre les deux personnages. Il y a deux filles qui interviennent aussi dans l'histoire.
Ouais. Il y a Lei qui est amoureuse de Wang et elle essaye de le sauver par multiples manières.
D'accord.
Et il y a Luki, elle qui est amoureuse de Xiong, sauf que Xiong ne l'aime pas et il dit qu'elle est très laide.
D'accord. Il t'a plu ce roman, Timothée ?
Ouais, j'ai bien aimé.
Ouais, tu as bien aimé. D'accord. Hugo ?
Merci Timothée pour ton intervention. Maintenant, nous allons écouter Julien, qui présente les personnages du livre qui s'intitule « Comme un feu furieux » de Marie Chartres. À toi, Julien.
Bonjour. Dans ce roman, il y a Galia, qui a 16 ans. Cette jeune fille s'occupe de ses frères et elle essaye de faire parler Gavril. Et elle élève son petit frère car sa mère a disparu. Lazare, on ne connaît pas son âge, donc c'est le petit frère de Galia et de Gavril. C'est l'ami de Josia le chien. Gavril, 20 ans, est né de la famille. Cet enfant est muet car il a subi un traumatisme car sa mère s'est suicidée dans l'océan glacé.
Voilà, c'est vrai qu'on découvre que c'est la raison pour laquelle il reste muet, il ne veut pas parler, mais on apprend plus tard qu'il réussit à parler quand même.
Oui. Le père a 50 ans. Pour surmonter le suicide de sa femme et repartir sur de nouvelles bases, il décide de quitter Tixi, sa ville.
Oui, la ville a une grande importance dans le roman. Cette ville de Sibérie où il fait si froid.
Oui. Acadie, 45 ans, il vit à côté du port où il cuisine pour l'équipe du brise-glace. Il connaît l'histoire de la famille Bolotine.
Merci Julien. Alors maintenant nous allons écouter Léni qui nous présente un résumé du récit Ne plus se taire de Véronique Olivier Barberon.
Bon bah c'est l'histoire de Lucie, une jeune adolescente de 14 ans. Elle est en pleine crise d'adolescence. Un jour, elle s'embrouilla avec ses parents, tellement qu'elle en avait marre, elle est partie faire un tour dans la rue. Puis, elle aida une vieille dame. Un jour, elle se réveillait pour faire plus connaissance. Et cette vieille femme s'appelait Hortense. Puis, un jour, elle invita à manger chez elle. Lucie accepta. Une fois qu'elle fut chez elle, elle vit un vieux bout de tissu avec le chiffre 4173. Hortense dit que c'est une vieille combinaison de prisonniers de camps de concentration. Puis Hortense lui raconte son passé.
Voilà, parce qu'elle a vécu dans les camps, en fait, oui. Hortense.
C'est exact.
Voilà, et qu'est-ce qu'elle cherche à faire, en fait, la jeune héroïne, Lucie? Qu'est-ce qu'elle souhaite d'Hortense?
Qu'elle apprenne ce qui s'est passé.
Voilà, qu'elle lui parle de son passé. Oui. Hein, c'est bien.
Exact.
Merci Léni. Alors maintenant nous allons écouter Arnaud qui présente un résumé du récit et les personnages qui s'appelle Tous les héros s'appellent Phénix de Natasia Rougani.
Bonjour, je vais vous faire un résumé de l'histoire du roman Tous les héros s'appellent Phénix. L'histoire commence avec Sacha et Phénix qui sont en vélo. Une voiture s'approche d'eux, c'était le prof d'anglais. Monsieur Smith. Il les fait monter dans sa voiture. La mère tomba amoureuse du prof et le prof profita de la situation pour battre Phénix sans que la mère voie. Et voilà.
Oui, parce que la mère, effectivement, elle ne se rend pas compte que ses enfants sont battus et même c'est pas trop son souci. Hein. On a l'impression qu'elle est amoureuse du prof d'anglais et c'est tout. Hein.
Oui.
Voilà.
Ça.
Voilà.
Merci Arnaud. Alors maintenant, c'est à Eddy qui présente le résumé du récit Outline et les personnages principaux.
Alors je vais vous parler de Charlotte Early. Elle a fait des études de lettres et a enseigné les arts du spectacle à l'université de Nanterre. Elle est devenue écrivaine et réalisatrice. Dans Outline, l'auteur parle de funambulisme, un thème qu'elle a enseigné à l'université.
Oui, alors elle s'est intéressée au funambulisme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du personnage principal?
Le personnage principal s'appelle Mousse, un jeune garçon de 15 ans. Qui va tenter des épreuves comme faire le funambule.
Alors ça, c'est son ami. Hein, c'est son ami. Le personnage principal, en fait, on ne sait pas son prénom. Hein, je crois qu'on ne sait pas son prénom. Mais Mousse, effectivement, il est avec lui pour l'accompagner dans cette épreuve-là. Hein. D'accord. Merci, Eddy.
Alors maintenant, nous allons réécouter Timothée qui a lu un autre livre qui s'appelle 12 ans, 7 mois et 11 jours. De Loris Muraille.
Je vais vous refaire un résumé du livre. C'est l'histoire de Walden, c'est un jeune garçon. Il est un peu mou, pas doué en sport. Et son père, il désespère et il décide qu'il est temps pour lui qu'il doit devenir un homme, un vrai. Du coup, il l'emmène dans les forêts du Maine, dans une cabane, et il le laisse là, tout seul. Mais pas longtemps, juste quelques jours. Le temps qu'Walden ait atteint l'âge exact de 12 ans, 7 mois et 11 jours.
Voilà, drôle de projet hein, que celui de ce père qui abandonne son fils en forêt. On verra peut-être un petit peu plus tard pourquoi il le fait. Hein maintenant, Hugo, tu vas demander à nos intervenants de parler un petit peu des auteurs. Bon, à part Eddy, hein, qui nous a déjà présenté son auteur. Donc, à toi Hugo.
Alors, nous allons écouter Mathis qui est absent. C'est un enregistrement que nous avons fait auparavant. du livre Le Royaume des cercueils suspendus de Florence Aubry.
Bonjour, je m'appelle Mathis. Je vais vous faire une courte biographie de Florence Aubry. Florence Aubry est une professeure documentaliste française. Après avoir obtenu une licence de lettres et un DEA de géographie, elle devient documentaliste. En 2001, elle publie son premier roman jeunesse, intitulé La disparue d'Aqualu. Aujourd'hui, elle a 18 livres à son actif. Elle publie principalement des romans jeunesse, dont Le Royaume des cercueils suspendus, qui a reçu le prix des lecteurs en 2014. Elle ne compte pas s'arrêter là. C'était Mathis.
Bon bah voilà, c'était Mathis. Alors maintenant, nous allons écouter Léni, qui présente l'auteur de Ne plus se taire.
D'accord, bon, la personne qui a écrit ce livre s'appelle Véronique Olivier Barberon, excusez-moi. Elle est née en 1953. Elle a toujours aimé la littérature. Elle est devenue professeure, puis elle a quitté l'enseignement en 1995 pour écrire des livres pour la jeunesse.
Merci, Léni.
Pas de quoi.
Alors maintenant, ça va être à Julien de présenter l'auteur de Comme un feu furieux.
L'auteur de ce roman, c'est Marie Chartres. Marie Chartres aime lire et écrire. Elle est médiathécaire au Châteaubriand. À Châteaubriand, et écrit pour la jeunesse. Elle a écrit Bleu de rose, qui est déjà passé au prix des lecteurs, qui raconte l'histoire d'une fille dont le frère est malade.
D'accord. Tu as lu ce roman, Bleu de rose, Julien ?
Non.
Non, d'accord. Maintenant, on va parler un petit peu d'un thème qui est commun dans différents romans. C'est le thème des pères qui revient régulièrement. Et on va écouter Arnaud qui s'est intéressé donc à Tous les héros s'appellent Phénix. Parce qu'à un moment, il y a la jeune fille qui dit de sa mère, en toute franchise, elle nous manque uniquement parce que l'autre garde les poings dans les poches quand elle est là. Hein, parce qu'effectivement, quand sa mère est là, le monsieur Smith ne bat pas la grande fille. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette violence, toi, Arnaud ?
Je trouve que c'est pas juste parce que, enfin, les filles, elles ont rien fait.
C'est vrai, elles ont rien fait. Puis, enfin, on voit que sa violence se déclenche comme ça, sans raison. Et quel est l'effet sur les filles ?
Bah, l'effet, enfin, il y a Sacha qui
souffre. Hein. C'est vrai que c'est elle qui prend le plus de coups, hein, qui est la plus humiliée.
C'est Phénix.
Ah, c'est Phénix, tu as raison, oui, tu as raison, oui. Et donc Sacha, c'est la petite, oui, tu as raison.
Elle ne réalise pas vraiment la violence de M. Smith envers sa sœur, mais...
Non, tu as raison, elle s'en rend compte plus tard, en fait, quand elle-même est victime de violence.
Oui.
Et quel est le rôle joué par la mère, finalement, dans tout ça ?
Bah, enfin... Elle... Bah, rien...
Rien, tu as raison, c'est ça qui est dramatique, hein. C'est que la mère, elle ne fait rien. Hein. C'est les voisins qui vont aider finalement les filles à s'en sortir. Alors, Timothée, par rapport au royaume des cercueils suspendus, là, on a un père, donc là, dans le premier roman, le père est absent, hein, et donc c'est la mère qui n'a pas de rôle. Et dans le royaume des cercueils suspendus, le père a un rôle étrange. Pourquoi est-ce qu'il fait le choix d'introduire son faux-fils dans le village ?
Le père, il introduit son faux-fils parce que son vrai fils, il est mort, mm-hmm. pas très longtemps après sa naissance.
Mm-hmm.
Et donc, il l'a remplacé par ce faux-fils qu'il a récupéré alors qu'il faisait une guerre contre le peuple d'en bas.
Voilà, donc il le sait, lui, que le fils n'a pas les pouvoirs.
Ouais.
Hein, mais il l'introduit quand même, et il le sait que lors de l'initiation, on peut dire, le fils va être incapable de voler.
Mmh. Et oui. En plus, il ne le dit même pas à son fils.
Voilà, et qu'est-ce que tu penses de ce père, toi ?
Bah...
Est-ce que c'est bien qu'il fasse ça? Qu'il lui dise pas?
Qu'il lui dise pas, il aurait dû un peu lui dire avant la cérémonie. Parce que le fils, du coup, il a passé la cérémonie et du coup...
Est-ce qu'il lui rend service en lui ayant jamais parlé de sa différence, finalement?
Au final, le fils, il s'en sort, donc je ne peux pas dire s'il lui rend vraiment service ou pas.
Oui. Enfin, ça aurait peut-être été plus facile de l'introduire dans la communauté, d'amener ça à tout le monde autrement, hein, en disant un peu les choses. Tu as lu donc le 12 ans, 7 mois et 11 jours, hein, et à un moment, on voit que le père est quelqu'un de très, très dur, hein, et le héros, le jeune garçon, Walden, dit « Je veux que vous sachiez qu'un enfant ne devient pas un homme en maniant une carabine et une batte de baseball. » Et c'est un petit peu ce qu'a l'air de penser le père, et toi, tu t'imagines qu'il a quelle vision de l'homme idéal, le père? Il voudrait que son fils devienne comment?
Il voudrait que son fils il devienne fort, courageux et avec de l'énergie.
Voilà, avec des qualités a priori comme ça, enfin de façon très stéréotypée masculine. Et est-ce que le fils correspond à cette image?
Au début, non, pas du tout.
Pourquoi?
Justement, j'ai dit qu'il est mou, il n'est pas doué en sport et...
Voilà, il n'est pas ambitieux, il n'est pas ambitieux, il n'a pas envie de faire des performances physiques, etc. Et donc, le père essaie de le faire grandir en l'abandonnant dans les bois, et est-ce que ça fonctionne?
Au début, Walden, il se croit vraiment abandonné. Mm-hmm. Et donc, il veut être fier, il veut que son père soit fier de lui. Mm-hmm. Donc au final, il grandit assez.
Oui, parce qu'il va prendre un petit peu les choses en main pour survivre.
Ouais. Hein.
Est-ce qu'il l'a seulement abandonné pour faire de lui un homme?
Non, pas vraiment. C'était pour le protéger.
Voilà. Et donc, est-ce que la fin nous permet de modifier un petit peu notre jugement sur le père?
Ça change quand même. Parce que le père strict, il se transforme en père protecteur.
T'as raison. Hein, très belle analyse de ce roman, c'est vrai. Le père, il est très antipathique au départ parce qu'il fait vraiment... macho, on a l'impression qu'il est vraiment pas sympa avec son fils, et quand on voit que c'est vraiment pour le protéger qu'il l'a mis là, on se dit non, finalement c'est un type bien, et ça remet un petit peu en perspective tous ses défauts. Léni,
oui.
Toi dans un autre père, hein, dans Ne plus se taire, on voit que Lucie a des difficultés de communication avec son père. Est-ce que tu penses qu'il est juste vis-à-vis d'elle?
Absolument pas.
Pourquoi?
Parce qu'en fait, Lucie, avec son père, c'est difficile parce que son père s'occupe pas trop d'elle. Mm-hmm. Il passe pas beaucoup de temps avec. Ils ont réussi à résoudre leurs problèmes avec une lettre.
Voilà, oui, c'est vrai que c'est grâce à une lettre, hein, qu'ils arrivent à résoudre leurs problèmes.
Oui. Et après, depuis qu'ils ont mis les points sur les i, ça se passe largement mieux.
Voilà, hein, donc ce père, on découvre là aussi qu'en fait, il est quand même attentif à sa fille. Hein, oui. Il ne savait juste pas trop comment communiquer. Julien, et toi, qu'est-ce que tu penses du père de Galia? Proche-toi, Julien. Tu sais pas trop?
Non,
Le père des filles. Hein, on le voit pas beaucoup dans le livre, en fait.
Non.
Qui est-ce qui gère tout pour les autres?
Galia.
Galia, hein, la sœur aînée. Hein, tu as raison. C'est elle qui prend vraiment les choses en main. Mmh. Alors, un autre thème qui est ressorti aussi de ces livres, c'était un petit peu la question de qu'est-ce qui met les personnages en action, qu'est-ce qui les fait bouger, qu'est-ce qui fait qu'ils vont décider à changer un petit peu leur situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et toi, Arnaud, donc les filles sont complètement prostrées à cause de la violence, et qu'est-ce qui leur permet de réagir?
C'est Phoenix qui finit par en parler à son petit copain.
Voilà.
Et va faire quelque chose pour réagir ça.
Voilà, hein. Et donc il va le petit copain, il va appeler sa famille pour dire qu'il faut aider les filles, qu'elles sont en danger, etc. Tu as raison. Alors Eddie, toi ton personnage, il se met en danger à un moment. Pourquoi? Est-ce que tu peux nous lire le premier extrait?
Oui, je peux le lire.
On t'écoute, Eddie.
Je refusais que la pauvreté nous freine, que l'argent devienne aussi le maître de nos rêves. Il m'en était pas question. Pas question qu'il ait une place en l'air. Pas question qu'il règne sur le fil. Mes jambes tremblent. Pourquoi m'être enterré à travers 50 mètres ?
Voilà, il décide de partir faire 50 mètres, ce qui est énorme, hein, de traverser 50 mètres sur un fil. Et pourquoi il se met en danger, Eddie ? Pourquoi est-ce qu'il décide de se mettre en danger, ce personnage ? Qu'est-ce qui le pousse à se mettre en danger, à ton avis ?
Mon avis, c'est parce que il a pas une vie très forcément bien.
Pourquoi ? C'est quoi sa vie ? Qu'est-ce qui fait que finalement il va décider à se remettre en action ? C'est quoi sa raison de vivre ? Qu'est-ce qui le pousse à aller sur le fil ? À aller jusqu'au bout ? Tu sais plus ? C'est envie de revoir sa mère. D'accord ? Alors, Timothée, toi, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu comment réagit Walden à l'abandon au départ. Qu'est-ce qui va le mettre en action, lui ?
Bah, il a peur et son père, il lui a donné des conserves, mais c'est pas assez pour le nourrir.
Voilà, il se rend compte que ça va pas faire le joint jusqu'à ce qu'il revienne. Et comment sa peur va se transformer en courage ?
Bah, il va rencontrer. Enfin, il va aller dans une ferme pour chercher de la nourriture. Mmh. Et donc, il va trouver des légumes, tout ça. Mmh. Sauf qu'à un moment, il y a un vieillard qui va le surprendre en train de voler ses légumes.
Oui, ça va chauffer un petit peu pour ses oreilles, là. Hein.
Ouais. Et du coup, il va se faire confisquer sa carabine. Mmh. Et il va se faire garder par la fille du vieillard, je crois.
Mais il parvient à s'échapper. Hein.
Oui, il parvient à s'échapper, voilà. À récupérer ses carabines.
Et est-ce que, c'est effectivement, sa peur se transforme en courage parce qu'il se met en action un petit peu. Et est-ce qu'il devient un homme, selon l'idéal du père, l'idéal initial du père ? Est-ce qu'on peut dire qu'il est en train de devenir un homme grâce à tous ces
ouais,
actes-là ?
Un peu, quand même.
Voilà. Et à quoi est-ce qu'on voit qu'il a grandi ?
Bah, il est largement plus courageux.
Qu'au début, oui. Ouais. Hein, il attend plus que son père arrive, en fait. Il a pris les choses en main, hein, tu as raison. Et Julien, toi, qu'est-ce qui, comme un feu furieux, à ton avis, qu'est-ce qui offre une solution d'espoir à la famille ? Qu'est-ce qui fait qu'ils se disent qu'ils vont pouvoir s'en sortir ? Tu sais plus ?
Non.
Donc, ils partent, hein, ils décident de partir. Et c'est ça, le fait de partir, qui va leur redonner du courage. Hein, et dans Ne plus se taire, Léni, à un moment, Hortense, elle dit, si je suis venue, c'est pour que ce passé ne m'empoisonne plus. Qu'est-ce qui fait que qu'elle va vouloir comme ça parler ? Pourquoi ?
Bah parce que si elle serait amenée à mourir, comme ça, tout ce qu'elle a vécu, parce qu'en même temps, c'est un peu historique, ce qu'elle a vécu, du coup, elle ne peut pas en parler. Du coup, c'est-à-dire que son secret sera avec elle dans la tombe.
Voilà, et elle se dit que c'est quand même important que les gens connaissent un petit peu la réalité de cette période.
Hein, ouais, bah,
pour pas que ça recommence.
Oui,
voilà. D'accord. Alors, j'ai l'impression que ça n'a pas été facile pour vous, la lecture de ces livres.
Non, ça allait.
Ça allait, bah, ça dépend. Ouais. Hein, okay. Ça dépend lesquels. Hein, moi, j'ai découvert qu'un tiers des ados ne lisaient plus par plaisir, et surtout les garçons, parce qu'ils avaient plus de travail scolaire, ils avaient d'autres loisirs, ils avaient d'autres centres d'intérêt. Et notamment, ils s'intéressaient plus à la réalité qu'à la fiction. Et vous, qu'est-ce que vous lisez ? Est-ce que vous lisez des fictions ou pas ? Des romans, des... Julien ?
Non.
Non, Eddie ?
Non, je suis pas trop lecture.
Tu n'es pas trop lecture, et toi, Arnaud ?
Non.
Non ? Les garçons, Léni, ça arrive ?
Ça m'arrive, oui.
Qu'est-ce que tu lis, par exemple ?
Les Game of Thrones.
D'accord. Et toi, Timothée ?
J'ai lu beaucoup, plus quand j'étais petit, genre en primaire.
Tu lis moins maintenant ?
Ouais, je lis plus beaucoup maintenant.
Et pourquoi ? C'est pour une des raisons que j'ai citées, là. T'as d'autres loisirs, t'as plus le temps, tu le prends plus.
J'aime plus trop lire.
Tu n'aimes plus trop lire, peut-être que ça correspond plus à... T'as pas retrouvé des livres qui correspondent à tes centres d'intérêt actuels ?
Oui.
peut-être. Et pourtant, enfin, vous avez écrit des slams en début d'année là en français, et puis vous avez fait preuve de beaucoup beaucoup d'émotions. Donc c'est la preuve que les émotions, c'est quand même important. Vous semblez les trouver plus dans l'écriture que dans la lecture. Est-ce que certains d'entre vous font un journal intime? Non, personne visiblement. Non.
Je suis pas une fille, moi.
Ah, c'est pas une histoire de fille, les journaux intimes. C'est marrant que tu dis ça, Julien. Moi, j'ai connu des garçons qui écrivaient des journaux intimes. C'est vrai que souvent, c'est plus souvent des filles, mais pas toujours, pas uniquement. C'est un journal intime, c'est pour écrire ce qu'on pense. Les garçons pensent quand même. Rassure-moi.
Non.
Non, il veut pas me rassurer. Et est-ce que c'est important pour vous, quand vous avez fait vos slams, d'écrire pour quelqu'un d'autre? Et toi, Sandati, est-ce que tu me disais que tu avais écrit et c'est important pour toi d'écrire? C'est plus facile d'écrire que de lire, hein?
Oui.
Oui, pourquoi?
Parce que j'aime bien écrire.
Oui. Tu aimes bien écrire?
Oui.
Pourquoi?
Parce que c'est ce que j'aime.
C'est ce que tu aimes, ça te permet d'exprimer des choses que tu ressens.
Oui.
Donc plutôt écrire que lire alors.
Oui.
D'accord. Alors Hugo, je vais te laisser la parole pour conclure.
Alors nous remercions le Collège Berthelot qui nous accueille à Cartable FM, les médiathèques du Mans qui organisent le prix des lecteurs, venus, auteurs, prêts, nous remercions aussi Morgane pour avoir préparé cette émission avec nous. Delphine Duchemin, qui se met à notre service et nous autorise à diffuser sur la radio du collège nos enregistrements réalisés à Cartable FM 93.3. J'en profite pour donner à ceux qui le souhaitent la référence de notre audioblog, c'est la WAF Radio, du collège Anne Frank, la radio qui a du chien sur Arte Audio Blog.
Voilà, donc après il y a l'adresse qui suit, donc si vous mettez Arte Audio Blog WAF, vous trouverez la web radio du collège Anne Frank. Voilà, merci, c'était le groupe 3 du collège. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.